Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Écoute-moi. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. L'intolérance et la bêtise gagnent chaque jour un peu de terrain. La radicalité aussi. Et nous allons peut-être tous finir dans un hôpital psychiatrique. Véronique Jacquet, Gérard Leclerc, Louis de Raguenel et Gilles William Golnadel sont avec nous. Pourquoi je vous parle de ça? J'ai trois séquences aujourd'hui qui montrent cette forme, certains diront bêtise, d'autres d'intolérance. La première, c'est le débat qui a eu lieu hier sur BFM, sur la réforme des retraites. Et sur le plateau étaient réunis le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, Jordan Bardella et Mathilde Panot. Et Mathilde Panot, de la France Insoumise, a refusé de serrer la main de Jordan Bardella. Elle a refusé de lui serrer la main. On voulait vous montrer cette image que vous avez peut-être vue sur les réseaux sociaux. Et ensuite, Jordan Bardella, avec un certain courage d'ailleurs, en plateau, l'a prise à témoin parce que c'était en dehors de l'antenne. Donc les gens n'étaient pas au courant de ça. Et il lui a dit « Vous avez refusé, madame, de me serrer la main. » Et écoutez la réponse de Mathilde Panot.
Vous avez refusé de serrer la main de Jordan Bardella. Pourquoi ?
Parce que je considère que le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres.
Vous avez serré la main de M. Véran ?
Non.
Ah d'accord, donc vous serrez la main à personne ?
Non, j'ai dit bonjour, je vous ai dit bonjour aussi.
D'accord, ben, voilà. Pour rassembler une majorité de Français, ça va être très compliqué.
Donc il a dit bonjour, alors il commence par dire, c'est très cohérent ce qu'a dit Mme Panot, il commence par dire que j'ai refusé de serrer la main parce que le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres. Ensuite, elle dit qu'elle ne dit pas bonjour à M. Véran, qu'elle ne lui sert pas la même, et qu'elle lui dit quand même bonjour. Qu'est-ce qu'on doit dire? C'est de la radicalité? C'est de l'intolérance?
C'est un manque d'intelligence absolue. C'est d'abord et avant tout stupide. Et ensuite, effectivement, de la radicalité, de l'intolérance, vous l'avez dit. Mais ce qui est assez grave pour Mme Panot aussi, c'est qu'elle oublie qu'une partie de ses électeurs votent Rassemblement National à certaines élections. Et que sur certaines parties de l'électorat, il y a des vases communicants.
Non, mais il faudra voir comment c'est jugé par les électeurs. C'est toujours la même chose.
Non, même au-delà de ça, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Qu'on le veuille ou non, le Rassemblement National est un parti admis, un parti qui s'inscrit dans la République. Et ses membres, dont Jordan Bardella, et plus de 80 députés à l'Assemblée, ont été élus par le peuple français. Donc ce sont des représentants du peuple français. Et donc refuser de serrer la main, d'ailleurs à qui que ce soit, objectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui... Mais en plus, quand ce sont des élus du peuple, voilà, c'est absurde. Et pour le coup, c'est même anti-républicain.
Non, moi je crois qu'il y a un vrai problème de fond par rapport à l'extrême-gauche. Cette extrême gauche qui refuse de serrer la main aux autres. Moi, je pense qu'on n'est pas assez radicaux avec la radicalité. Je pense que Monsieur Bardella ou les gens du Rassemblement National sont trop gentils avec l'extrême gauche. Je pense que depuis l'histoire...
C'est-à-dire qu'il devrait partir.
Oui.
Le diffuseur.
Si je peux aller jusqu'au bout, un tout petit peu de...
Ah bah, généralement, c'est vraiment... C'est vous qui
ça a duré 12 secondes. Je dis simplement qu'à partir de l'histoire du match de football... Les gens du Rassemblement National auraient été bien inspirés de refuser la main des gens de l'extrême-gauche. Je pense que, vraiment, il y a un vrai problème de fond.
C'est-à-dire quoi, refuser la main? C'est-à-dire refuser aussi de leur serrer la main?
C'est-à-dire faire
la même chose. Vous
savez, mais c'est la moindre des choses. Je ne vous ai pas compris. Monsieur Leclerc, demain... refuse ma main, vous croyez pas que je vais lui tendre la prochaine fois? C'est ce qu'aurait dû faire.
On a une différence là-dessus.
Ça s'appelle la réciprocité.
Et le diffuseur, qu'est-ce qu'il doit dire?
Le diffuseur, si par exemple sur un plateau, deux élus républicains ne souhaitent pas se serrer la main, le diffuseur doit leur dire vous serrez la main ou on diffuse pas. Il doit s'en mêler ou pas?
Il doit le faire remarquer. Je pense qu'il doit le faire remarquer, puisque lui a considéré que ces gens-là étaient invitables, tous autant qu'ils sont. Le diffuseur a, me semble-t-il, l'obligation morale de le faire remarquer aux
téléspectateurs. Si c'était dans un sens, peut-être qu'on le ferait remarquer, mais quand c'est dans l'autre sens, on le fait peut-être pas remarquer.
J'ai la faiblesse, malheureusement, de le penser. Mais non, mais je voudrais encore un mot sur l'extrême gauche. Oui. J'ai tweeté, je renvoie ceux qui me regardent à ce tweet, j'ai tweeté un tweet de M. Louis Boyard. Ça vous dit quelque chose, M. Louis Boyard?
Bien sûr, mais on l'a, cette archive-là.
Non, mais ce que j'ai tweeté?
Non, mais lorsqu'il avait refusé de serrer la main à l'Assemblée nationale.
Ah, c'est pas ça, c'est un tweet où il...
Là, regardez, là, par exemple, il ne serre pas la main au moment de...
Non, mais voilà.
De Philippe Ballard, il lui a refusé la main.
Parce que voilà une autre conscience morale qui refuse de serrer la main des gens.
Oui.
C'est quelqu'un qui tweet, ne me parlez pas d'Israël, je suis en France pour défendre les musulmans, que vous le vouliez ou non, Israël a volé la Palestine. Moi, je dis que quelqu'un qui accepte, un parti qui accepte un discours pareil en France, est un discours, à mon avis, est un parti auquel je n'ai pas envie de serrer la main aux démons.
Véronique Jacquet, voilà.
C'est un comportement complètement antidémocratique. De toute façon, c'est d'une grande bêtise. 13 millions de Français d'électeurs plutôt ont voté pour le Rassemblement national au deuxième tour de la présidentielle. Donc ce que dit Mathilde Panot ne tient pas la route. Et puis, une chose, cela dit, ce comportement, ce n'est pas nouveau, parce que quand Marion Maréchal était à l'Assemblée et qu'elle était députée, bien des députés ont refusé à l'époque de lui serrer la main et elle se sentait bien seule.
Mais il y a un but. Le but, c'est de considérer les gens du Rassemblement national comme des pestiférés.
Oui. Bon. Alors quand je dis que l'intolérance gagne chaque jour un peu de terrain, la radicalité, la bêtise, c'est intéressant, là. CNews a organisé une campagne de publicité. La liberté d'expression n'a jamais fait autant parler. CNews, qui est aujourd'hui la deuxième chaîne d'information et qui, sur bien des tranches, comme on dit, est souvent leader. Eh bien, figurez-vous que les journaux Le Monde et Libération ont tous deux refusé une publicité de cette chaîne d'information, de notre chaîne d'information CNews, sur la liberté d'expression. Ils ne la diffusent pas. Et là aussi, Je souligne une période d'intolérance et de radicalité. Et je fais un parallèle entre cette poignée de main qui est non serrée et ce que fait Le Monde et Libération. Parce que c'est l'époque. C'est intéressant de voir comment CNews, qui est donc une chaîne d'information, est perçue par des confrères. Parce que Le Monde et Libération, au fond, ce sont des confrères. Nous avons parfois grandi dans les mêmes écoles, nous nous connaissons. Mais cette liberté d'expression qui est la nôtre ici vient heurter manifestement la doxa du Monde et de Libération qui avait peut-être une sorte de monopole de la parole depuis des années et qui n'entendent pas qu'on vienne qu'on ne rapporte pas la bonne parole qui était la leur. C'est intéressant, je trouve.
Non, mais votre parallélisme est de bon aloi. Vous avez raison. C'est aussi une grande preuve, effectivement, d'intolérance parce qu'en vérité... Au fond d'eux, ils ne supportent pas que ce monopole, Paul, ait été brisé. Ils ne le supportent pas. Ils avaient le monopole complet de la décérébration des esprits. Ils ne l'ont plus. Bon, donc du coup...
Moi, je dirais pas ce que vous dites. Parce que
mais non, mais moi, je le dis. Voilà. Ah, non, mais non seulement
je dirais qu'ils défendent leurs idées, qu'il y a une propagande.
Non, mais il y a une chose, c'est qu'il y a une dérive.
Moi, j'invite tout le monde, au contraire, autour de la table. Tout le monde peut dire, au contraire.
Mais bien sûr, mais il y a une dérive.
Mais eux, ils n'invitent pas.
Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a une dérive de l'extrême gauche en général et du journal Le Monde en particulier, qui finalement prend les patins d'un mouvement d'extrême gauche qui s'appelle les Sleeping Giants, les géants endormis, qui est un mouvement d'extrême gauche qui vient d'Amérique et qui tente de boycotter, d'influencer les annonceurs. Voilà la réalité.
Ce qui est comique, c'est que c'est pris pour de la provocation finalement. Ça devient tragicomique. Mais souvenez-vous, le service public avait quand même censuré des pubs pour les chrétiens d'Orient. deux fois de suite à Noël et à Noël.
Bon, Gérard, Noël, vous en pensez quoi? Vous n'aimez pas juger
là aussi, c'est la laïcité.
Gérard n'aime pas juger
à double tranchant.
Exactement.
Gérard n'aime pas juger ses confrères. Gérard n'aime pas juger ses confrères.
Reste là.
Gérard, vous libre. Gérard a une attitude toujours dans la vie qui est intéressante. Ça s'appelle Ponce Pilate. Et on sait dans ce cas-là ce qu'il en est advenu pour ce pauvre Christ.
Du tout, vous m'avez posé la question sur Panneau, j'ai répondu, bah, je crois, clairement.
Il ne veut pas juger.
Sur les médias,
je ne veux pas juger.
Je ne considère pas Le Monde comme un journal d'extrême-gauche, très franchement. Voilà.
Non, mais ce qui est dingue, c'est
moi, je n'ai pas dit ça non plus, j'ai dit que je le considère comme un journal manifeste.
Mon voisin l'a dit.
Mais, il est devenu. Mais, je ne sais pas si Le Monde, comment dire, je ne considère pas Le Monde comme un journal d'extrême-gauche, mais je pense que Le Monde me considère, je vais parler que de moi, tout simplement, comme un journaliste d'extrême droite. Mais ça, j'en suis convaincu. Voilà. Parce que à partir du moment où tu n'es pas du pas gauche, pour eux, tu es d'extrême droite.
Vous tombez dans le piège. Vous tombez dans le piège. Le Monde, ça ne gêne pas Le Monde de vous considérer comme d'extrême droite, mais vous continuez à traiter Le Monde avec des pincettes qui sont, à mon avis...
Non, j'ai aucune pincette avec eux, franchement.
Il y a une dérive de ce journal. Oui, vous ne voulez pas la voir. Mais je ne vois pas pourquoi vous traitez Le Monde différemment qu'il vous... C'est en raison, mais ce que je veux dire, c'est l'histoire de Bardella.
Vous n'allez pas parler tout le temps en même
d'accord,
temps,
mais,
parce que vous parlez tout
d'accord,
seul.
D'accord, mais vous tombez dans le piège. Allez, ça va continuer comme ça des années.
Mais non, mais ne vous énervez pas.
Soyez radicaux avec la radicalité. Écoutez-moi. Voilà. J'ai parlé, je me tais.
Justement, le fait d'en parler, déjà, c'est...
Mais j'en parle.
Ah oui, non, c'est bien. Bah, je vous rends.
Donc,
ça, vous avez raison.
Mais je les connais, je sais. Ils s'endorment le soir avec un portrait d'Edoui Plenel au-dessus de leur lit.
Voilà.
Il c'est leur dieu.
Plenel est revenu au monde.
Voilà, c'est qu'est-ce que je vous dis ? C'est leur dieu. C'est ce journalisme-là qui les intéresse. Bon. Et alors la troisième chose du jour, parce que c'est vraiment très intéressant, trois événements comme ça qui montrent l'état du pays. Vaincre ou mourir, le Puy du Fou. Ce matin, on était avec Nicolas Devilliers. Bon, Vaincre ou mourir, c'est un film d'1h55 qui retrace le combat de François Athanase Charette de la Contrée, dit Charette, qui était un général royaliste. Bon, c'est vrai que la Vendée a été fortement attaqué en 1793 par la République, par le général républicain, le nommé Wisserman, et qu'il y a eu des massacres en Vendée. Bon, on peut parler de génocide.
Non.
Plus de 20%
un génocide. Justement, un génocide.
Bien sûr que non.
Dites-moi ce que c'est un génocide, la définition.
Vous pouvez dire qu'il y a eu des crimes de guerre. Un génocide, c'est justement quelque chose qui est très particulier. Il y a eu peu de génocide, heureusement.
C'est quoi un génocide ?
Un génocide, c'est quand il y a une volonté de massacrer toute une population pour raison.
Mais ce n'est pas vrai.
C'est destruction méthodique d'un groupe humain.
C'est invraisemblable.
Ce n'est pas vrai. Puisque en Vendée, puisque vous avez...
Mais c'est la doxa.
Mais il le dit. Puisque en Vendée, vous avez une partie de la Vendée qui d'ailleurs, en parenthèse, les guerres de Vendée ne se situent pas seulement en Vendée. Vous avez une bonne partie de la Vendée qui était républicaine. Oui. Donc vous ne pouvez pas dire qu'ils ont voulu massacrer tous les Vendéens. Bon, c'est absurde.
Alors, les républicains ont massacré.
Il y a eu une répression violente. Il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis.
Massifs.
Voilà, j'ai terminé.
Bon, pardon. Alors, avant de vous donner la parole, il faut quand même que les gens comprennent de quoi on parle, parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle.
Mais là, on parlait de quelque chose de très précis.
Non, parce que on parle du film d'abord, de Nicolas Devilliers, qui était là ce matin. Donc... il est venu présenter son film. Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Je ne vais pas refaire le débat sur la Vendée.
Ah ben on est obligé d'en dire un petit mot. Hein.
Non.
Ce qui m'intéresse, c'est que M. Nicolas Devilliers est invité nulle part.
Sur Europe 1, quand même.
Oui, qu'il n'ira ni sur France Inter, ni sur le service public, ni dans aucune émission de service public. Qu'il y a eu effectivement Libération, après le parc, le film, le puits du foudre.
Du fourbe.
Voilà. Avec, vous me direz que Libération est lue par pas grand monde, mais dans le métier, si j'ose dire, c'est très représentatif de la pensée des journalistes. Bon. Et que jamais, c'est le mot d'un attaché de presse du film, qui disait qu'il a rarement vu une omerta comme cela sur un film. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Et les journalistes n'ont pas besoin de se parler des rédactions les unes les autres. C'est-à-dire que Nicolas Devilliers, puis Dufou, on n'en parle pas. Voilà, on en parle. Ou on démonte le film, etc. Sur une réalité, il y a eu 200 000 Vendéens qui ont été tués. Bon, on peut appeler ça génocide, tout ce que vous voulez, mais a priori, la définition de génocide, je l'ai lu, la définition de génocide, parce que c'est quand même intéressant, la définition de génocide, destruction méthodique d'un groupe humain.
Voilà.
Et c'est ce que les troupes républicaines disaient à l'époque.
À ce stade du débat, je peux intervenir ?
Oui.
Bien. Alors d'abord, vous avez raison d'associer dans votre, dans votre réprobation de l'intolérance générale la manière dont on traite ce film. La manière dont on traite ce film ne peut évidemment pas être découplée de la manière dont on traite, je dis bien, le génocide vendéen. J'ai préfacé le livre de Reynald Séché qui parle de ce qu'il connaît sur le génocide vendéen. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les gens de gauche veulent bien parler, par exemple, d'un génocide à Sarajevo. Mais il n'est pas question de parler d'un génocide vendéen. Vous pouvez toujours dire non. Carrier, l'auteur des Noyades de Nantes, disait « Il faut éradiquer la Vendée, la femme et les femmes et les enfants compris. » Et Gratus Babeuf, qui n'était pas un tendre, était contre justement la manière dont on traitait le peuple vendéen. Mais là, c'est une insulte complète à la République. Vous avez encore des types d'extrême gauche qui ne supportent pas que des types comme moi pensent que le 21 janvier... Eh ben, c'est quand même. Je pense quand même qu'on n'aurait pas dû décapiter Louis XVI. Mais les gens qui sont opposés, ces gens-là qui sont opposés à la peine de mort contre les criminels, contre les terroristes, ils ne comprennent pas que je ne sois pas content qu'on ait décapité le roi.
Mais
oui,
mais il a raison.
Non, mais globalement,
Gilles William a raison parce que, en fait, ce qui est insupportable pour certaines personnes, en fait, il y a deux choses. C'est que une société de production qui fait des spectacles, qui cartonne, le Puy du Fou, c'est quand même. Je crois le premier site culturel visité en France. Ça, c'est déjà, c'est insupportable, mais c'est la réalité.
Un exemple pour le monde, hein.
Exactement.
Mais c'est le roman produisent national.
Produisent un
et
film
les gens
en plus sur le tabou absolu. C'est la première fois dans l'histoire, je crois, qu'un film, une production télévisée est produite justement pour expliquer, donner un autre son de cloche par rapport à ce qu'on a toujours appris sur la doxa et avec ce mythe selon lequel la République... Les massacres en Vendée, le génocide vendéen... Oui. Moi, on ne me l'a pas beaucoup appris. Je l'ai appris par des livres tout seul.
On l'apprenait parce que vous êtes passé plus tard à l'école.
Moi, pas beaucoup.
Dans les années 70, alors il se trouve que je suis plus
là-bas. Moi, c'était le tabou absolu.
Les profs nous disaient qu'effectivement, les Vendéens avaient été massacrés par la République en 93. C'est la terreur. Wisserman, d'ailleurs, ne s'en est jamais caché.
Oui, mais simplement une chose,
il a terminé sur l'échafaud avec Danton.
Oui, simplement une chose, ce qui est juste une chose, ce qui est insupportable aussi pour ces personnes-là, c'est que la République a fait quelque chose de mal. Et en fait, ça casse un peu le mythe de la République qui est juste une religion de paix et d'amour. Elle a fait des choses qui étaient terribles, ça s'est terminé dans le sang. Et les royalistes, les catholiques étaient victimes. Et c'est vrai que je trouve que ça lève le voile sur une partie de l'histoire qui a été occultée au nom du récit national, pour essayer d'expliquer que la République n'a apporté que du bien.
Mais n'ayant pas vu, insupportable, c'est que Nicolas Duvillier dit que c'est son premier film, mais que c'est pas le dernier, et qu'il y a la volonté donc d'une contre-attaque culturelle, enfin de briser une hégémonie de gauche culturelle. Donc évidemment, ça énerve certains, que ce soit au Monde, que ce soit sur le service public ou ailleurs, que ce soit dans le milieu du cinéma, qui est quand même à 95% à gauche. Voilà. Donc disons les choses, c'est un film de droite qui vante en plus des héros catholiques vendéens, et être catholique et être héroïque, c'est encore un gros mot. On est sur les restes de la Révolution française. Les républicains d'aujourd'hui sont des enfants de la Révolution française qui était farouchement anti-catholique. Le laïcisme issu de la Révolution française est avant tout anti-catholique. Et on le voit encore aujourd'hui quand on essaye de détruire des crèches ou de détruire des statues. Bon. On est encore dans cette post-révolution française.
On peut peut-être l'écouter d'ailleurs, parce qu'on ne l'a pas écouté, Nicolas Duvillier. Il était avec nous ce matin. Après, je donne la parole à Gérard Leclerc.
Vous savez, c'est un journal qui a quelques milliers d'abonnés. Oui. Donc c'est normal de s'accrocher à un succès. C'est une bonne stratégie, qui est le succès du Puy du Fou, pour essayer de vendre du papier. D'ailleurs, je sais qu'ils ont beaucoup bien vendu hier. Donc
évidemment,
c'est une excellente stratégie. Les gens qui écrivent ces articles, mais c'est un groupuscule journalistique, ils sont très peu nombreux. C'est des gens pour qui la révolution ne semble pas terminée. Mais c'était il y a 230 ans. Il faut qu'on fasse la paix avec notre histoire. On raconte une épopée française. Et quand Besson fait un film sur Jeanne d'Arc, personne lui dit vous êtes un royaliste parce que Jeanne d'Arc a remis le roi sur le trône. C'est ridicule. On peut
vous appelez De Villiers.
Je m'appelle De Villiers.
Vous appelez De Villiers.
Moi, je chante la Marseillaise. J'embrasse le drapeau tricolore. Et c'est ça, la France. On peut aimer Charette et aimer Clémenceau. Alors, moi, je vais vous dire, les producteurs, les distributeurs, tous les gens que j'ai rencontrés dans le cinéma français nous ont accueillis de façon très bienveillante. Il ne faut pas dire ça. Ça vraiment. Et de même, les exploitants de ça, les directeurs de cinéma.
Mais je suis sûr que le public va vous suivre. Évidemment, le public va vous suivre.
On est très bien accueillis. C'est juste que là, c'est un peu spectaculaire de voir la une de Libé. Alors, on se dit qu'il y a des gens qui critiquent le film. Mais en fait, moi, je trouve ça formidable. probable que le film suscite au moins un intérêt de la part de gens qui pensent qu'on est encore il y a 230 ans.
Bon, il a raison. François Furet et Mona Ozouf, vous ne les contestez pas?
Non. Non,
mais... Ce sont les deux plus grands historiens de la Révolution qui ont donné raison à Chauny.
Ah non, soit les deux plus
grands. Il s'agit évidemment d'un génocide au sens strict et juridique du terme, d'un crime contre l'humanité. Ouais. Et parler de crime de guerre est absurde. C'est François Furet et Mona Ozouf. Et le petit mot que je vous lis, il est signé parce qu'il nous écoute en ce moment, de Luc Ferry.
Bravo.
Bravo. Bon, là, ça vous laisse quoi?
Non, non, parce que moi, je ne suis pas de ceux qui mettent Furet, que Furet a écrit des bouquins formidables. Il y en a eu beaucoup, toute l'historiographie française de la Révolution, il y a beaucoup d'autres auteurs. Voilà, je ne pense pas que Furet soit...
Et Mona Ozouf?
Mona Ozouf aussi, oui, non, ce n'est pas le sujet. Ce sont des grands historiens, je ne conteste pas, mais il y en a beaucoup. Personnellement, je conteste le terme de génocide. Oui. Comme, contrairement à ce que vous dites, je pense par exemple qu'à Sarajevo, on ne peut pas parler de génocide. Contrairement à ce que certains ont dit, et notamment les Ukrainiens, je ne pense pas. Je pense que les Russes font des atrocités en Ukraine, mais ce n'est pas un génocide.
Mais restons sur la Vendée.
Alors, parce qu'on était sur le mot génocide. Bon. Sur le film, je ne l'ai pas vu. En revanche, j'ai vu le spectacle du Puy du Fou, qui est un spectacle magnifique. Je considère quand même, et je ne suis pas le seul, que c'est un spectacle au moment de la guerre de Vendée qui est très orienté.
On marque une pause, mais c'est intéressant. Et le film s'est fait, mais démonté dans toute la presse.
Alors ça, je n'ai pas vu.
Évidemment. Moi, je n'ai pas vu le film encore.
Enfin, il est
démonté dans Le Parisien. Non, mais c'est très intéressant parce les films aujourd'hui sont vus et jugés par les journalistes avec des critères idéologiques. Il faut remplir des cases. Donc un film, effectivement... qui parle des catholiques, des royalistes, de la Vendée.
Et victime de la République.
Il coche les mauvaises cases. La pause et nous revenons dans une seconde.
On va en parler. C'est intéressant parce que la Convention a voté la destruction de la Vendée.
Sais bien.
Donc
bien
si sûr. On appelle pas ça génocide...
Non, mais là, je répète.
Est-ce que vous votez à la patte
de quelque chose à faut pas prendre destruction.
Faut pas prendre ça.
Je rappelle, parce que. Je veux dire, je rappelle, elles ont. La Convention a voté la destruction de la Vendée.
Voilà. Donc après, on peut en parler pendant des heures.
Ce qui s'est passé. Il y a eu des atrocités, notamment commises par les colonnes infernales.
Là, je vous répète, la Convention a voté la destruction. Alors après,
mais ce n'est pas un génocide.
D'accord, mais elle a juste demandé de détruire la Vendée.
Oui, mais ce n'est pas un génocide.
Non,
c'est
quoi alors?
C'est autre chose.
Ah bon,
mais génocide, c'est pas ça la définition de génocide.
Alors, je vais vous dire.
On va passer tout ça, c'est un débat qui me paraît.
Mais si, c'est très intéressant. Le génocide, la définition, cher Gérard, c'est la destruction méthodique d'un groupe humain.
Mais oui.
Lorsque la Convention décide la destruction de la Vendée, vous appelez ça comment?
Ce n'est pas un génocide.
D'accord. C'est donc pas la destruction méthodique d'un groupe humain.
Destruction, ce n'est déjà pas... Un génocide, c'est
faire
disparaître de la surface de la... Un génocide, c'est Hitler qui fait un génocide contre les Juifs. Turcs qui font un génocide contre les Arméniens.
Vous
ne pouvez pas dire dans le cas d'une guerre civile...
Adrien Spiteri.
Ah oui, parce que c'est les Tutsis contre les...
Adrien.
Le chômage a reculé en France en 2022 avec 114 000 inscrits à Pôle emploi en moins au quatrième trimestre. Selon les chiffres du ministère du Travail, le chômage a baissé de 3,6%. Il retrouve son niveau le plus faible depuis le troisième trimestre 2011. Le président de la Ligue nationale de handball démissionne. Bruno Martini est condamné à 12 mois de prison avec sursis et une amende de 2 500 €. Il est jugé coupable de corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques. Selon le parquet de Paris, Bruno Martini accepte la décision. Il avait été champion du monde avec les Bleus en 1995 et 2001. Et puis au moins 2 morts et 7 blessés dans une attaque au couteau ce mercredi en Allemagne. Les faits se sont déroulés dans un train régional circulant dans le nord du pays. L'auteur présumé a été interpellé. Le motif de l'agression n'est pas encore connu. Toutes les pistes sont étudiées par la police.
On va terminer bien évidemment sur ce sujet. Les colonnes infernales de Thureau seraient responsables de près de 160 000 morts. Le caractère systématique de ces exactions a littéralement dépeuplé une région déjà pauvre. Celle-ci mettra en effet de nombreuses années avant de retrouver un équilibre.
Qui dit ça?
Non, mais ça, c'est factuel.
Ça, non, mais qui ça sort
qui dit ça, c'est, qui dit ça, c'est
non, non, résumé de... Non, mais le résumé de qui
mais c'est un résumé. Mais qui dit ça
déjà, le chiffre 160 000, c'est pas, je le conteste totalement. Bon, les colonnes infernales ont été... Pourquoi colonnes infernales sont en soi suffisamment épouvantables pour ne pas rajouter des trucs.
Mais après, vous
êtes pas vous avez le droit de défendre cette thèse.
Mais je ne défends rien du tout. Je dis que François Furet et Mona Ouzouf disent de génocide. Qu'est-ce que vous voulez que moi, journaliste,
je
ne conteste pas ce que dit François Furet, qui sont deux académiciens français de très haut vol, François Furet et Mona Ouzouf.
Vous avez d'autres historiographies de la Révolution.
D'accord, mais bon, je
vous avez Albert Mathiez, vous avez Hollard, vous en avez des quantités.
Je rapporte. Oui, mais les deux que je cite sont les deux plus grands, sans doute, du XXe
siècle. Non, c'est pas vrai. Sur la Révolution, non. Non, sur la Révolution, non.
On va pas faire ça.
Albert Mathiez est sans doute le plus grand historien de la Révolution.
Modestement, je suis plus modeste que vous, puisque moi, je rapporte leurs propos. Vous, vous avez un avis, moi, je n'en ai pas. Je rapporte ce qu'ils disent.
Parce que j'ai beaucoup travaillé sur la Révolution.
Ah bah oui, bien, vous avez bien fait. Bon, nous avons terminé ce sujet sur l'intolérance qui gagne du terrain avec nos trois sujets que je voulais vous faire, sur lesquels je voulais vous faire réagir. Bon, le travail. Le travail et le rapport au travail. C'est vrai que le Covid a changé beaucoup de choses. Selon un sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, le rapport au travail des Français a changé. Bah, évidemment, tu as mis les gens chez eux et tu les as payés. Bah, après, ils n'ont plus envie de sortir. Ils sont contents. Si vous voulez, avec le Covid, ça ne fallait pas être grand clair pour... Comment ?
Mais c'est pas vous faites le lien direct avec le Covid. C'est une tendance qui a démarré bien avant. Oh, et ce n'est pas le Covid qui a changé.
Enfin, c'est grave, si... En ce moment, non, vous êtes épuisant, quoi. Vous parlez. Mais non. Je peux même pas en placer une.
Ah si, c'est pardon.
Bon. quelle place le travail occupe-t-il dans votre vie ? En 10 ans, ça a changé. C'est pas une tendance. En 10 ans, c'est exactement inversé. Une place très importante en 90, 60% des gens. C'était une place très importante. Ils ne sont plus que 21% aujourd'hui. Donc vous voyez, en 30 ans, c'est passé de 60 à 21%. Mais les salariés préfèrent le temps à l'argent. Là, en 10 ans quasiment, entre 2008 et 2022. En 2008, on préfère gagner plus mais avoir moins de temps libre, 62% des gens. Et en 2022, on préfère gagner moins mais avoir plus de temps libre. Vous voyez ? C'est l'exact contraire. Bon, bah, moi, je fais un lien effectivement avec le Covid. Maintenant, je peux me tromper. Bien évidemment, mais que ça a changé des choses.
Non, mais François Véronique Mitterrand,
il y a pas que 81, ça. Vous avez raison.
François Mitterrand en 81 avait créé un ministère du temps libre, donc il donnait déjà le tempo d'un changement civilisationnel. C'est-à-dire que oui, maintenant on est dans une société du temps libre et du confort, du cocooning, du repli sur soi, de la maison, d'une gestion assez égoïste de sa propre vie et de son rapport au travail. Après, il y a un deuxième phénomène qui n'apparaît pas dans vos graphiques, c'est qu'on est un pion maintenant dans une entreprise. Pour la majorité des Français, le vivent comme tel. Vous êtes viré plus facilement qu'avant, mais il n'y a plus de rapport paternaliste à l'entreprise. Oui, si, dans bon nombre d'entreprises, partout.
C'est pas les entreprises dans lesquelles je suis passé.
Écoutez,
c'est
le nombre de gens à 50, 52 ans, 55 ans qui sont foutus à la porte pour embaucher un jeune, on en a parlé maintes fois dans des émissions.
Je vous assure, faut pas généraliser. Là.
On ne peut pas généraliser, mais ça existe.
Là, pour le coup, faut
pas généraliser. Pense que ça implique aussi une forme de détachement par rapport au rapport à l'entreprise. C'est pas uniforme, bien entendu, mais ça joue. C'est pas les années 40 ou les années 60 où le patron était un vrai père et où, effectivement, vous rentriez à 18 ans et vous partiez à 65. Non mais figure papa. Paternelle. Une figure paternelle. Ça existait.
Oui. Bah, je veux bien qu'on vienne en retour. J'entends ce que vous dites, mais bon, je suis pas sûr que ce soit...
Mais ce qu'il y a surtout, c'est que dans les années 60, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas d'autre choix que de travailler parce qu'il n'y avait pas de filet. C'est-à-dire que c'était votre journée, ça occupait toute votre vie parce qu'il n'y avait pas l'État derrière, il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas des minima sociaux. Et je pense que la deuxième chose, c'est qu'on a complètement perdu la dimension du rôle émancipateur du travail. C'est-à-dire que ça permet d'accéder à quelque chose, ça permet d'être heureux. Il y a des gens qui subissent, qui ont un travail qui est vraiment pénible et horrible, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et heureusement, si on peut être heureux et si on est épanoui, ça existe. Bon. Et c'est tant mieux. Et enfin, je pense, la dernière chose, c'est que les 35 heures ont complètement cassé l'organisation même psychologique des gens dans leur rapport au travail. Parce que, en fait, mais vous voyez, il y a beaucoup de gens aussi qui aujourd'hui organisent leurs vacances, leur temps libre, et adaptent le travail en fonction.
Maître Goldnadel, vous êtes avocat. Bon. Vous voyez les jeunes avocats arriver qui ont 25 ans. Bon. Est-ce qu'on peut être un grand avocat en travaillant 4 heures par jour ?
Non.
Bon. Est-ce qu'on peut être un grand avocat
en travaillant 8 heures par jour.
8 heures, c'est déjà bien. Mais, oui,
mais est-ce que vous diriez que dans votre profession...
Oui. Non, mais moi, je peux vous dire, c'est un témoignage, je peux vous dire que les jeunes avocats que j'embauche sont sans doute encore plus bosseurs que la génération d'avant. Donc, sur ce métier-là, je ne peux pas corroborer à vos sondages. Ils sont très bosseurs, les mômes. C'est clair. Maintenant, tout ce que j'ai entendu est vrai. Il y a beaucoup de raisons. Il y a aussi le rapport avec le travail physique. Il n'y a plus d'ouvriers en France.
Mais c'est pas ça qui m'intéresse.
Ensuite, c'est pas forcément négatif, Monsieur Pro. C'est pas forcément négatif. Vous n'êtes pas le fait que beaucoup de gens considèrent que la réussite professionnelle n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de la réussite dans sa vie. Moi, ça me choque pas. Ce qui me choque plus, c'est quand j'entends votre Enzo expliquer que les gens peuvent bosser que
Enzo, c'est le jeune
voilà,
qui était
que les gens
sur
peuvent
la place
bosser
de la République,
deux heures par jour.
Interrogé
et ça
par
suffit.
Geoffrey de
vous comprenez ce que je veux dire que le travail soit nécessaire, ça me passe. C'est vraiment une vue d'occidental du 21e siècle de penser que c'est pas nécessaire. Mais qu'on ne place pas le travail au centre de ses préoccupations, moi ça me choque pas.
Bon, en tout cas, c'était un sondage qui nous a intéressé. Je voulais votre avis là-dessus, le monde.
Je vais pas donner le mien.
Mais non, parce que.
Bon, voilà.
Mais vous donnez-le quand même alors.
Non.
Si, donnez votre avis.
Ce qui est incroyable, c'est qu'on est plutôt d'accord sur le constat.
Oui.
Simplement, moi, je pense pas. Je pense que le Covid a peut-être rajouté un tout petit truc, mais que c'est une tendance beaucoup plus sur le beaucoup plus long terme.
Je suis d'accord.
C'est vrai que les jeunes et tous les témoignages vont dans ce sens-là, sauf peut-être chez les avocats, mais je suis un peu surpris. C'est-à-dire que de plus en plus, les jeunes, leur vie personnelle a une grande importance. Et moi, j'ai des amis qui sont chefs d'entreprise qui me disent, mais à un haut niveau, quand ils recrutent des ingénieurs, les types commencent à leur dire... Comment ça se passe au niveau des vacances, au niveau des horaires, etc. Et clairement, ils font entendre qu'il n'est pas question qu'ils sacrifient leur vie personnelle pour leur vie professionnelle.
Mais vous avez eu le sentiment de sacrifier votre vie personnelle quand vous étiez à Europe 1 et que vous aviez 30 ans ?
Moi, je sais pas, j'adorais ça. Et l'époque, on me disait, il faut travailler deux jours de suite sans... Ça me gênait pas.
Bah non.
Parce que je voulais absolument arriver, parce que j'adorais ce métier.
Oui.
Mais, bon, d'une part, on a la chance quand même de faire des métiers qui sont... Oui. Formidable.
Mais vous
il y a des métiers qui sont beaucoup plus ennuyeux.
Mais vous
quand
avez
même,
le sentiment de sacrifier votre vie personnelle. Vous avez le sentiment de
non,
sacrifier votre vie avec vos enfants.
Mais c'est là où
vous avez le sentiment d'avoir raté des choses.
Mais c'est là
avec
où la mentalité a changé.
Parce que vous avez plus.
C'est là où les mentalités.
Vous les
ont
avez
changé.
Vus, vos enfants, vous les avez accompagnés, et puis ils ont été très heureux, et puis la famille était heureuse, etc.
Oui, mais
tout
les
ça
mentalités
me paraît,
ont changé.
Oui, pas en bien.
Mais alors simplement un mot juste par rapport à Véronique. Il y a quand même, semble-t-il, un problème d'ambiance, d'organisation du travail dans les entreprises françaises.
Oui.
C'est-à-dire
que
beaucoup de salariés ne sont pas heureux.
Allez, avançons. Oui, mais bon, ils ne sont pas... Oui.
Ah bah oui.
Oui, sûrement, d'ailleurs. C'est vrai, il faut prendre la souffrance au travail, il faut la prendre. Bon, les retraites, évidemment, on va en parler. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, alors, on n'en a pas parlé depuis le début, parce que j'ai l'impression qu'on dit tous les soirs la même chose, et on nous le reproche d'ailleurs parfois. Simplement, que s'est-il passé aujourd'hui? Que s'est-il dit de nouveau aujourd'hui? Je vous propose d'écouter messieurs Martinez et Berger, c'est l'intersyndicale. Et qu'est-ce qu'on prépare le 31 janvier? Une grande manif, mais avant, écoutons les leaders syndicaux.
Nous avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier, date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger et rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale.
On n'est pas encore en vacances, ok? Il n'y a pas des vacances. Les vacances, c'est la semaine prochaine. Mais non, les vacances, c'est à partir du 5 ou 6, je crois, pour les premières zones. Donc aujourd'hui, il y a une mobilisation le 31. Ce qui est important, c'est le 31. Le 31, il faut qu'un maximum de citoyens, de travailleurs et travailleuses soient mobilisés dans les manifestations partout en France, le fasse dans le cadre qui était celui du 19, c'est-à-dire de façon revendicative et respectueuse et pacifique. Et c'est ça la démocratie, c'est qu'on puisse s'exprimer comme ça. Donc la CFDT, c'est la voie qu'elle poursuit. Le 31 au soir, on se regroupera de nouveau en intersyndicale pour décider ensemble, ce qu'on fait.
Bon, je fais juste une petite parenthèse parce que les messages sur notre discussion sur la Vendée arrivent par milliers quasiment.
Non, vous avez... Il y a beaucoup de gens qui pensent.
Vous avez réveillé toute la Vendée. Noirmouti va organiser une manifestation dans quelques minutes, après vos propos, contre vous. Et mon ami Jean Dallery, qui habite Noirmoutier, ce fameux sociétaire de la société française, que me dit-il, Jean Dallery ? Il me cite la proclamation de la Convention. Proclamation de la Convention, vous ne pouvez pas la nier. « Soldats de la liberté, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin du mois d'octobre. Le salut de la patrie l'exige, l'impatience du peuple français le commande, son courage doit l'accomplir. »
Mais ça, c'est rien par rapport
oui, mais à... Mais il y a eu bien pire. Hein,
mais ça, c'est rien. Ils ont...
Les déclarations ne font pas un génocide.
D'accord. Vous avez rallumé tout Noirmoutier. Ouais. Les gens sortent de leur maison à Noirmoutier en ce moment. Croyez-moi, vous allez passer un mauvais moment. Vous allez passer un mauvais moment ce soir à Noirmoutier.
Je le sens pas.
Je vous dis franchement. Bon, revenons sur ce que disait donc Monsieur Martinez et Berger. Vous avez compris, 31 janvier. Alors, Xavier Bertrand, dis-lui qu'il faudrait peut-être revoir le droit de grève, et notamment ce qui se passe par exemple en Italie, où on ne peut pas faire grève au moment des vacances. Voilà une question intéressante. Écoutons Xavier Bertrand et vous me dites ce que vous en pensez.
De cibler à chaque fois les vacances pour bloquer les Français, évidemment que c'est un abus. Et d'ailleurs, nos lois doivent évoluer. J'ai porté moi-même à l'époque la loi sur le service minimum qui oblige à se déclarer, mais qui fait aussi que ceux qui font grève sont plus payés aujourd'hui. Alors que pendant très longtemps, ça a été le cas.
Et qui fait dire à Philippe Martinez que c'est un frein à la grève, cette obligation de se déclarer à l'avance.
Et il veut que je le plaigne, M. Martinez, peut-être ?
Bon, est-ce qu'il faut réformer, est-ce qu'il faut changer le droit de grève ?
Mais évidemment qu'il faut le changer. Attendez, mais d'abord, il faut lutter contre un mensonge. On vous dit que la Constitution considère le droit de grève comme sacré. C'est un gros mensonge. La Constitution, au contraire, dit que le droit de grève est autorisé, mais qu'il faut qu'il soit organisé. Il suffit de changer la Constitution et de pas seulement le préavis. Le préavis, ça sert à rien. C'est facile d'envoyer un préavis en disant « je vais faire grève demain ». Il faut clairement qu'il y ait un minimum, le service minimum dans les transports, dans les services publics où justement il y a des monopoles, il doit être organisé.
Par exemple, c'est quoi? Vous l'aurez organisé comment? C'est-à-dire que vous dites pas de droit de grève quand il y a des vacances scolaires?
Je réquisitionne.
Mais là, vous ne pouvez pas réquisitionner. Techniquement, ce n'est pas possible.
Bien sûr, on ne peut pas réquisitionner.
Non, mais c'est très compliqué.
Réquisitionner quand il s'agit de raffinerie au nom de la société.
C'est compliqué. En revanche, ce qui me paraît plus simple, c'est de dire le droit de grève en vacances.
Non, mais la vie, c'est compliqué. Et effectivement, paralyser tout le monde, c'est très simple. Ça, oui, c'est
sûr. Il y a deux exemples de pays qui sont tout à fait démocratiques. D'une part, c'est l'Italie, qui a fixé un certain nombre de week-ends, notamment de jours fériés, de vacances, etc., où la grève n'est pas
effectivement
pas de grève possible à Noël,
et
à Pâques.
Vous avez même un
etc.
pays, je crois que c'est l'Autriche, où dans les monopoles, dans les entreprises qui ont un monopole, la grève est interdite.
Oui, exactement. Oui, mais parce que le droit de grève fait concurrence à la liberté d'aller et venir pour l'usager. On dit que les deux peuvent cohabiter
ceux qui sont responsables, c'est les Français. Non, mais les Français sont responsables d'accepter cette situation de manière moutonnière.
Ou alors ils la subissent, mais oui.
Bon, je voulais vous faire écouter. Alors, Pierre-Louis Bras, c'est dommage parce que toutes les rédactions l'invitent, mais il ne veut pas parler. Qui est Pierre-Louis Bras ? C'est le président du COR. Bon. Et il a été obligé de parler parce qu'il a été convoqué à l'Assemblée nationale, c'était le 19 janvier. Donc, c'était la semaine passée. Il a été obligé de répondre. Et que dit-il sur les retraites ? Il dit que tout va bien. Il dit que tout va bien. Et, non, mais c'est quand même le président. Hein.
Oui,
mais ça donc,
il y a un rapport qui ne dit pas ça.
Alors, je vous propose de l'écouter. Oui.
Les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. Et dans l'hypothèse retenue par les gouvernements, elles diminuent très très peu, mais un peu à terme. D'accord ? En règle générale, ce propos suscite un certain étonnement. À la fois, il y aura moins de cotisants par rapport aux retraités, mais ce qu'on donnera à chacun des retraités par rapport à ce que gagne chacun des cotisants sera moindre. Une stabilisation, dans la plupart des hypothèses, des dépenses de retraite par rapport au PIB. D'accord ? Donc, ce qui permet au corps d'affirmer que les dépenses de retraite ne dérapent pas.
Oui, non, mais.
Mais pourquoi on fait là?
Eh ben, je vous explique. Oui, mais... bah, ouais. Vous vous expliquez tous.
Non, mais...
sur tous les sujets, vous expliquez.
Non, mais c'est. Mais moi, je veux bien écouter. Non, mais le président du corps qui intervient dans une audition à un moment explosif. Moi, je n'ai pas écouté toute l'audition. Ouais. Moi, je me souviens simplement qu'il y a des études qui ont été faites par l'institut qui est dirigé par ce monsieur et qui clairement explique dans quasiment toutes les hypothèses qu'en 2030 il y aura un déficit situé entre 12 et 15 milliards d'euros et que précisément c'est la raison pour laquelle il faut réformer les retraites. Je suis pas un ambassadeur du gouvernement, simplement Emmanuel Macron c'est juste, c'est pas pour emmerder les gens qu'il fait la réforme des retraites, c'est pas une fixette.
Non, mais il a une raison politique, c'est-à-dire que comme sa marge de manœuvre est réduite, la seule chose qu'il peut faire pour reprendre un peu des couleurs, c'est gagner sa réforme des retraites. Il a aussi un intérêt.
Alors oui,
faut pas être naïf.
Mais attendez, pourquoi est-ce que Éric Zemmour, Valérie Pécresse, tous les LR, pendant la campagne présidentielle, ils défendaient une réforme des retraites qui, globalement, n'est pas exactement celle-là, mais elle est dans cette trajectoire-là? Mais c'est pas des fous. Ils n'ont pas tous affabulé. Et à chaque fois, tout le monde s'appuie sur le corps.
Alors, je vais vous dire, parce que c'était un peu démagogique.
Idéologique.
Démagogique comme proposition. Et en fait, tu te rends compte, quand tu rentres dans le détail, qu'il y a des gens, faut pas les faire travailler au-delà de
ça. On est d'accord. Et Pascal, on est d'accord. Il y a un problème avec les mères de famille. Il y a un problème avec les gens qui commencent à bosser à 20 ans.
Mais le travail que vous faites.
Pascal, on est d'accord.
Mais
bien sûr.
Et dans les
mais est-ce que pour autant, il ne faut pas réformer les retraites? Je pense pas.
Pascal, une retraite est nécessaire.
Et le système sera déficitaire dans 30 ans.
Les gens plus longtemps, il y a de plus en plus de retraités.
On va pas être le seul pays d'Europe à travailler moins de temps parce qu'on a raison contre tous.
Les gens,
un tout petit mot sur ce qu'a dit le président du corps, il dit les retraites, les dépenses vont pas déraper. C'est pas le sujet.
Non, c'est pas
le sujet. C'est les cotisations. Il y aura de moins en moins de cotisations.
Mais bien entendu. Alors, moins de
mais il vous explique que c'est pas grave qu'il y en ait de moins pour.
Si vous avez moins de cotisations, par définition,
non,
vous avez un problème.
Bah non,
moins de cotisations.
Allez.
Moins de cotisations, donc des pensions de retraite qui sont de moins en moins importantes. Et c'est le sujet des années qui viennent.
Mais si vous faites travailler les gens plus longtemps et qui n'ont pas de job entre 55 et 65 ans, je ne vois pas comment les pensions ne vont pas baisser.
Mais enfin, on en a parlé
dans tous les autres pays. Les autres pays ont aussi réintégré les vaccinés. Vous, l'argument des autres pays, c'est à géométrie variable. Hein. Quand ils réintègrent les vaccinés, là, vous dites « Ah oui, mais on est le seul à le faire. »
Donc voilà.
Il nous reste 5 minutes, amis. L'Académie des Césars a dévoilé la liste des nominations pour la prochaine cérémonie. Alors, moi, je suis triste. Je veux dire pourquoi je suis triste. D'abord parce que Elsa Silberstein n'est même pas nommée parmi les meilleures actrices de l'année. Voilà un film qui a incroyablement marché, Simone. La performance d'Elsa Silberstein est quand même exceptionnelle dans le film Simone. Vous l'avez vu, Gérard. Et elle n'est même pas nommée. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Et je l'ai regretté. Les Césars de la meilleure actrice, c'est des grandes actrices, bien sûr. Hein, on peut revoir leur nom. Bon, de la même manière, Nicolas Bedos, et c'est aussi un film qui a fait des entrées. Nicolas Bedos, qui a un talent. Faudrait beaucoup de Nicolas Bedos dans le cinéma français. Son talent, quand même, est rare. Son énergie, son inventivité, etc. Il n'est même pas nommé. Bah, évidemment, parce
enfin, les autres, ils n'ont pas l'air mauvais non plus. Hein. Il faut bien choisir.
Jean Dujardin n'est pas mauvais.
Oui, mais là, c'est. Attendez, non, mais c'est son film, là. Là, il a réalisé, Nicolas Bedos, Mascarade. Le problème, ce qui est dommage parfois avec l'Académie, c'est que des films qui ont un public ne sont pas forcément nommés. En revanche, Pacific Sion, c'est sûrement un excellent film, je n'ai pas vu, qui était à Cannes. 53 000 entrées. 9 nominations. Donc, voilà. Pacific Sion, Tourment les îles. 53 000 entrées avec Benoît Magimel. 9 nominations. Mais je suis persuadé que c'est un très bon film. Encore, César du Meilleur Frère, encore, c'est un excellent film. L'Innocent, c'est un excellent film aussi. Les Amandiers.
La Nuit du 12, c'est un film formidable.
Mais Jean, mais les Amandiers, la Nuit du 12, bien sûr. Exceptionnel.
Mais attendez, j'en suis sûr. Je peux regretter simplement que les nominations. Il manque peut-être un soupçon de populaire. Et je citais à juste titre Elsa Silberstein qui a interprété Simone. C'est le plus gros succès français de l'année. 2,5 millions d'entrées. Bon, ils ont deux nominations. L'actrice ne figure même pas parmi les cinq actrices nommées. Donc bon, voilà, c'est... Alors, L'Innocent, excellent film, 11 nominations. Vraiment, L'Innocent, allez voir ce film, de Louis Garrel, c'est vraiment, c'est formidable. Vous l'avez vu ?
Ouais.
Ouais, vraiment, formidable. C'est formidable.
Louis Garrel est exceptionnel, mais dans tous les films.
Oui,
Louis Garrel est...
C'est vrai que... Et alors, Louis Garrel, il va être favori, à mon avis, pour avoir et le meilleur César, quoi, le César du meilleur acteur.
Caravage, qui vient de sortir, qui est sorti il n'y a pas longtemps, où il est exceptionnel.
Bon... Vous vous rendez compte qu'on a ressuscité les guerres de Vendée. Tiens, vos amis les guerres de Vendée, je vais encore vous dire ce qu'a écrit la Convention. La Convention, la proclamation de la Convention. Détruisez la Vendée. Valenciennes et Condé ne sont plus au pouvoir de l'Autrichien. Détruisez la Vendée. L'Anglais ne s'occupera plus de Dunkerque. Détruisez la Vendée. Le Rhin sera délivré des Prussiens. Détruisez la Vendée. L'Espagne se verra harcelée, conquise par les méridionaux, joint aux soldats victorieux de Mortagne et de Cholet, etc., etc. Si vous n'appelez pas ça un génocide, détruire, quand la Convention détruisez. Enfin, bah, moi, alors, je sais
pas. Détruire, c'est pas un génocide.
Non, mais quand Carrier dit faut tuer les.
Carrier,
c'est quand même autre chose.
Si Gérard Leclerc n'existe pas, il ne faudrait pas l'inventer.
Oui, il y a une bataille parmi les historiens. Je ne suis pas le seul à dire excusez-moi, que la Vendée, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Mais il y a aussi...
C'est un débat. On a le droit de ne pas être... Excusez-moi, on a le droit de ne pas être d'accord.
Mais c'est dur.
Moi, j'analyse les choses.
Bah, écoutez-moi, quand je vous lis les textes, c'est dur.
Quand on a dit, quand les Ukrainiens ont dit que c'était victime d'un génocide, j'ai dit ce n'est pas un génocide.
Pardonnez-moi, les Ukrainiens... Je m'en fiche, la formule est malheureuse.
Poutine n'a pas dit qu'il fallait tuer les femmes et les enfants.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les Ukrainiens, sur ce débat-là, ils ne sont pas dans mon débat. Non. Je vous dis que dans le débat avec ce que je viens de citer et les proclamations de la Convention, il me semble, cher Gérard, je ne suis pas un grand historien, mais qu'on peut considérer que ces propos sont des propos génocidaires. Il me semble. Mais
des propos génocidaires, ce n'est pas un génocide, c'est déjà
il me semble.
Sauf qu'ils ont joint les actes à la parole.
Il me semble.
Propos génocidaires, ce n'est pas un génocide.
C'est magnifique.
Négationniste.
Ah, Leclerc, heureusement que tu as Leclerc. Là. Bon, comment ça va, monsieur
sur votre plateau, c'est...
Vous qui étiez un grand spécialiste du cinéma, vous avez... Quels sont vos films préférés? J'ai regretté qu'Elsa Silberstein ne soit même pas nommée...
Je comprends pas. Très franchement, je comprends pas qu'il n'y ait pas Mascarade de Nicolas Bedos. Je comprends pas qu'il y ait Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Annaud. Qui...
Notre-Dame brûle,
je comprends pas.
Brûle n'est pas cité. Mais parce que c'est des films un peu populaires. Souvent, le jury ne récompense pas les films les plus populaires.
C'est pas le jury, là, ce sont les professionnels de la profession. Voilà, les Amandiers ont un nombre de nominations qui est absolument incroyable. Et c'est, voilà, donc, mais on aime le cinéma français.
Bon, en tout cas, Elsa Silberstein, elle doit être triste parce que sa performance dans le film était...
Enfin, vous lui avez rendu un hommage appuyé. Ça vaut tous les Césars.
La pirouette de la fin.
On n'aime pas le cinéma populaire au César. C'est compliqué d'avoir des films populaires voilà, qui sont nommés. Mais c'est aussi le rôle.
Ça sera sur Canal, c'est le 24 février. Il y aura cette année 11 maîtres de cérémonie. Oui. Et ça va être, comme chaque année, un moment important.
C'est quelquefois ridicule.
C'est jamais ridicule.
Ah bon, les Césars ah. Non, oui, d'accord. C'était mise toute nue, je ne sais plus comment elle s'appelait, celle-là. Ou la sortie.
Corinne Maziero.
Ou la sortie, là, contre.
C'était Corinne Maziero.
Rappelez-moi son nom.
C'est une cérémonie sublime.
Adèle Haenel, ah oui,
c'est une cérémonie sublime qui est retransmise par le groupe Canal Plus et par Canal Plus. Et je vous permets d'être.
Vous défendez l'établissement.
Je vous permets d'être au rendez-vous le 24 février pour cette belle.
Télérabat, vous défendez. L'établissement.
Vous êtes dans cette belle soirée. Non, mais vous avez raison, il y a des.
C'est ridicule.
Mais ça reste aussi dans l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez que ça reste dans l'histoire des Césars.
C'est une belle cérémonie avec parfois des moments ridicules.
Ridiculement.
Voilà. Ça arrive.
Un peu comme vous.
Je ne le tolère pas.
Bon, le tease, on est en retard.
Mais non, il n'y a plus de tease, il n'y a plus rien à dire. C'est vaincre ou. Chez vous, tous les soirs, c'est pareil. C'est vaincre ou mourir. Là, ce soir, je suis mort.
Voilà. Bon, restez à l'antenne pour suivre notre ami Ben Kemoun. Vous n'arrêtez pas de parler, vous êtes vraiment désagréable. Réalisation, Arnold Cara qui était avec nous aujourd'hui, Philippe était à la vision, Grégory qui était au son. Ont aidé à préparer cette émission Robin Piette, Benjamin Nau qui était aux manettes et Léo Marcheguet. Rendez-vous demain matin.
Et vive la Vendée.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.